Alors aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 1, l'amour et la triple voie de la synthèse des yogas 2, le yoga de la connaissance intégrale et l'amour divin de Sri Aurobindo, traduit de l'anglais par la mère. La connaissance est le fondement d'une vie constante en le divin, car la conscience est le fondement de toute vie et de tout être. Or, la connaissance est l'action de la conscience, la lumière par laquelle elle se connaît elle-même et ses réalités. Le pouvoir par lequel, partant de l'action, nous sommes capables de saisir les résultats intérieurs de notre pensée et de nos actes dans une solide croissance de notre être conscient jusqu'à ce que par l'union, nous arrivions à l'accomplissement de notre être en l'infinitude de l'être divin. Le divin vient à notre rencontre sous bien des aspects, et de chacun de ces aspects, la connaissance est la clé, si bien que, par la connaissance, nous entrons en l'infini et possédons le divin en toutes ses manières d'être. Sarva Bhavena, dans la Bhagavad Gita. De même que nous le concevons en nous et nous sommes possédés par lui dans toutes nos manières d'être. Sans la connaissance, nous vivons en lui aveuglément avec tout l'aveuglement du pouvoir de la nature absorbé dans ses œuvres. Oublieuse de sa source et de son possesseur. Et par conséquent, nous ne vivons pas divinement. Nous sommes privés de la pleine et vraie félicité de notre être. Par la connaissance, nous parvenons à l'unité consciente avec ce que nous connaissons, car c'est seulement par l'identité que l'on trouve une connaissance complète et réelle. Et la division est guérie, la cause de nos limitations, toutes nos discordes, toutes nos faiblesses et notre mécontentement est aboli. Mais la connaissance n'est pas complète sans les œuvres, car Dieu n'est pas seulement l'être pur, ni l'existence silencieuse et consciente de soi. Il est aussi la volonté dans l'être. Et si les œuvres trouvent leur sommet dans la connaissance aussi trouve son accomplissement dans les œuvres. Et ici, de même, l'amour est le couronnement de la connaissance. Car l'amour est la félicité de l'union. Or, l'unité doit être consciente de la joie de cette union pour découvrir toutes les richesses de sa propre félicité. En vérité, la connaissance parfaite conduit à l'amour parfait et la connaissance intégrale à une richesse d'amour infiniment variée et ronde. Celui qui me connaît en tant que suprême Purusha, dit la Gita, non seulement en tant qu'unité immuable, mais dans le mouvement divin aux âmes innombrables, et aussi comme celui qui est supérieur à l'un et à l'autre, et en lequel l'un et l'autre sont contenus divinement. Celui-là, parce qu'il a la connaissance intégrale, me cherche par amour, en toutes ses manières d'être. Telle est la trinité de nos pouvoirs et la triple union en Dieu, à laquelle nous parvenons quand nous faisons de la connaissance notre point de départ. L'amour est le sommet de tout être et le chemin de son épanouissement. C'est par lui que nous nous élevons à toutes les intensités, toutes les plénitudes et à l'extase absolue de la découverte de soi. Car s'il est vrai que la nature même de l'être soit la conscience, et que par la conscience, nous devenons un avec lui, et donc que, par la parfaite connaissance, nous trouvons notre accomplissement dans l'identité. La nature même de la conscience, cependant, est la félicité, et l'amour est la clé et le secret de la suprême félicité. Et si la volonté est le pouvoir par lequel l'être conscient s'accomplit, si par l'union dans la volonté, nous devenons un avec l'être, en son pouvoir infini, caractéristique, cependant, toutes les œuvres de ce pouvoir commence par la félicité. Vivant la félicité, ont la félicité pour but et pour fin. L'amour de l'être en soi et dans la totalité de lui-même manifesté par le pouvoir de sa conscience, tel est le chemin de la parfaite largeur de l'âme. L'amour est le pouvoir et la passion de la félicité divine. Sans amour, nous pouvons avoir la paix extatique de l'infini, le silence absorbé de l'ananda, mais non l'absolue profondeur de sa richesse et de sa plénitude. L'amour nous fait passer de la souffrance de la division à la béatitude de l'union parfaite, mais sans pour autant perdre la joie de l'acte d'union. C'est la plus grande découverte que l'âme puisse faire. Et toute la vie du cosmos en est une longue préparation. Ainsi, s'approcher de Dieu par l'amour, c'est se préparer à l'accomplissement spirituel le plus grand qui soit. L'accomplissement de l'amour n'exclut pas la connaissance, au contraire, il apporte lui-même la connaissance. Et plus la connaissance est complète, plus la possibilité d'amour devient riche. Par la bhakti, dit le Seigneur dans la Gita, l'homme me connaît dans toute son étendue, toute ma grandeur, et tel que je suis dans les principes de mon être. Et quand il me connaît dans les principes de mon être, il rentre en moi. L'amour sans la connaissance est quelque chose d'intense et de passionné, mais d'aveugle, peu raffiné, souvent très dangereux. C'est un grand pouvoir, mais aussi une pierre d'achoppement, très limitée, un amour limité en sa connaissance se condamne à l'étroitesse en sa ferveur, et souvent même à cause de sa ferveur. Tandis que l'amour qui conduit à la connaissance parfaite apporte l'union absolue et infinie. Or, cet amour-là n'est pas compatible avec le travail divin. Au contraire, il s'y jette avec joie, car il aime Dieu et il est un avec lui dans tout son être et par conséquent dans tous les êtres. Travailler pour le monde est alors une façon de sentir et d'accomplir innombrablement son amour pour Dieu. Telle est la trinité de nos pouvoirs. La triple union en Dieu à laquelle nous parvenons quand nous commençons notre voyage par la voie de la dévotion, par l'amour pour l'ange du chemin. Alors, nous découvrons en l'extase de la félicité divine de l'amant de tous, l'accomplissement de notre être, sa demeure sûre, son lieu béatifique et le centre de son rayonnement universel. L'union de ces trois pouvoirs étant la base de notre perfection, le chercheur d'un accomplissement de soi intégral en le divin doit rejeter s'il y a les incompréhensions et le mutuel dédain que les adeptes de ces trois voies ont souvent les uns pour les autres. Ceux qui ont le culte de la connaissance semblent souvent, sinon méprisés, du moins regarder la voie de la dévotion du haut de leurs éminences vertigineuses, comme si c'était la voie inférieure, ignorante, bonne seulement pour les âmes qui ne sont pas encore mûres pour les hauteurs de la vérité. Il est vrai que la dévotion sans la connaissance est une chose souvent frustre, rudimentaire, aveugle et dangereuse, comme le sont souvent et montrer et prouver les erreurs, les crimes et les folies des religions. Mais c'est parce que leur dévotion n'avait pas trouvé sa propre voie, ni son principe véritable, et qu'elle n'était donc pas vraiment entrée sur la voie. Elle tâtonne maladroitement et cherche à la trouver. Elle est sur l'un des nombreux sentiers détournés qui y conduisent. Et la connaissance, de même à ce stade, est aussi imparfaite que l'est la dévotion. Elle est dogmatique, sectaire, intolérante, enfermée dans l'étroitesse de quelque unique principe exclusif lui-même, généralement très imparfaitement compris, mais quand l'adepte de la dévotion a saisi le pouvoir qui l'élève, quand il s'est vraiment emparé de l'amour, c'est cela finalement qui le purifie et l'élargit aussi efficacement que peut le faire la connaissance. Ce sont deux pouvoirs égaux, bien que leurs méthodes pour arriver au même but soient différentes. L'orgueil du philosophe qui regarde du haut de sa passion, le dévot qui vient, comme tous les orgueils, d'une certaine déficience de sa nature, car l'intellect trop exclusivement développé manque de ce que le cœur peut donner. L'intellect n'est pas en tout point supérieur au cœur. S'il ouvre plus aisément des portes auxquelles le cœur s'essaye en vain, il est par contre fermé à des vérités pour le cœur, sont très proches et très faciles à saisir. Et de même que la voie de la pensée s'approfondit et se change en expérience spirituelle, elle arrive sans doute aisément au sommet éthéré, au pinacle, aux immensités célestes. mais elle ne peut, sans l'aide du cœur, sonder les riches abîmes intenses de l'être divin, ni les profondeurs océaniques de l'Ananda. Le chemin de la bhakti est souvent considéré comme inférieur, inévitablement. D'une part, parce qu'il recourt à un culte et que le culte appartient à un stade d'expérience spirituelle où il existe encore une différence, une unité insuffisante entre l'âme humaine et le divin. Puisque son principe même est l'amour et que l'amour suppose toujours deux, l'amant et le bien-aimé, un dualisme par conséquent. Tant que l'unité est l'expérience spirituelle la plus haute, et d'autre part, parce qu'il cherche un Dieu personnel, alors que l'impersonnel est la vérité suprême et éternelle, voire l'unique réalité. Mais le culte n'est qu'un premier pas sur le chemin de la dévotion. Quand le culte extérieur se change en adoration intérieure, la vraie bhakti commence. Elle s'approfondit, elle se transmue en l'intensité de l'amour divin. Or, cet amour conduit à la joie d'une relation plus intime avec le divin. Et la joie de l'intimité se change en la béatitude de l'union. L'amour aussi, autant que la connaissance, nous conduit à l'unité suprême, mais il apporte sa profondeur et son intensité plus grande. Il est vrai que l'amour revient avec le bonheur à une différence dans l'unité et que par cette différence, l'unité elle-même devient plus riche et plus douce. De son côté, l'adepte de la dévotion est enclin à regarder de haut une connaissance pure et simple qui lui paraît aussi sèche que de la sciure de bois. Il est vrai que la philosophie en soi, sans le ravissement de l'expérience spirituelle, est une chose aussi sèche qu'elle est claire et qu'elle est incapable de nous donner toute la satisfaction que nous cherchons. Même son expérience spirituelle, tant qu'elle n'a pas quitté le support de la pensée et jaillit au-delà du mental, vit beaucoup trop dans une félicité abstraite. Et si la réalisation qu'elle atteint n'est certes pas le vide qu'il semble à la passion du cœur, elle n'en est pas moins la limitation des pics. Par contre, l'amour est lui-même incomplet sans la connaissance. La Gita distingue trois sortes préliminaires de bhakti. Celle qui cherche refuge en le divin contre les chagrins du monde, artha. Celle qui est mue par le désir et qui s'approche du divin comme du dispensateur de son bien, arthārthi. Et celle qui est attirée par ce qu'elle aime déjà, sans le connaître encore, et qui a soif de connaître cet inconnu divin, Jijnasu, mais elle décerne la palme à la bhakti qui connaît. Évidemment, l'intensité de la passion qui déclare « Je ne comprends pas, mais j'aime », et qui, parce qu'elle aime, ne se soucie point de comprendre, n'est pas l'ultime expression de l'amour, mais la première et ce n'est pas non plus sa plus haute intensité. Au contraire, à mesure que la connaissance du divin grandit, la félicité en le divin et l'amour du divin doivent grandir. Le ravissement à lui seul n'est pas non plus sans danger, sans le fondement de la connaissance. Vivre en ce que nous aimons nous donne cette sécurité, mais vivre en l'aimer signifie que l'on est un en conscience. Or, l'unité de conscience est la condition parfaite de la connaissance. Alors, je répète parce que c'est très important. L'unité de conscience est la condition parfaite de la connaissance. La connaissance du divin donne à l'amour divin sa sécurité la plus solide, lui ouvre toute l'étendue de la joie de sa propre expérience, l'élève au plus haut fait de sa vision. Si la mutuelle incompréhension de ces deux pouvoirs est une ignorance, leur tendance commune à regarder de haut la voie des œuvres et à la considérer comme inférieure à la noble envolée de leur propre accomplissement spirituel est une ignorance non moins grande. Il existe une intensité d'amour de même qu'il existe une intensité de connaissance. Et pour elle, les œuvres semblent quelque chose d'extérieur et de dissipant. Mais les œuvres n'apparaissent extérieures et dissipantes que tant que nous n'avons pas trouvé l'unité de notre volonté et de notre conscience avec le suprême. Quand nous avons trouvé cette unité, les œuvres deviennent le pouvoir même de la connaissance et un jaillissement de l'amour. Si la connaissance est l'état même de l'unité et l'amour sa béatitude, les œuvres divines sont le vivant pouvoir de sa lumière et de sa douceur. Il y a dans l'amour divin comme une aspiration de l'amour humain, un mouvement qui tend à isoler l'amant et l'aimé dans la jouissance de leur unité exclusive. Loin du monde et des autres, cloîtrés en leur chambre nuptiale du cœur. Peut-être ce mouvement est-il une étape inévitable sur cette voie, portant l'amour le plus large. Celui qui s'est accompli en la connaissance ne voit pas le monde comme une chose étrangère et hostile à sa joie, mais comme l'être du bien-aimé et toutes les créatures comme son être. Et dans cette vision, les œuvres divines trouvent leur joie et leur satisfaction. Telle est la connaissance en laquelle doit vivre le yoga intégral. Nous sommes obligés de commencer notre route vers Dieu par les pouvoirs du mental, de l'intellect, de la volonté, du cœur. Or, dans le mental, tout est limité. Les limitations et les exclusivismes ne peuvent manquer au début du chemin et pendant longtemps. Mais le yoga intégral les portera plus légèrement que d'autres voies de recherche plus exclusives. Il sortira plutôt de la nécessité mentale. Il peut commencer par la voie de l'amour ou par la voie de la connaissance et celle des œuvres. Mais c'est au point où elles ne se rencontrent que commence la joie de son accomplissement. il ne peut pas manquer de trouver l'amour, même s'il ne commence pas par l'amour, car l'amour est le couronnement des œuvres et l'étape de l'épanouissement de la connaissance. La fin de l'amour et de la triple voix de Sri Aurobindo. Merci, Sri Aurobindo Mère. Ganga Lakshmi. Merci, maman.